Donc le but, c'était pas forcément d'être le plus fort aux détections, c'était pas d'avoir les meilleures performances, tout ça, mais c'était surtout ce qu'ils voyaient en nous pour l'avenir. Eux, ils voulaient surtout pas qu'on scrame, surtout pas qu'on fasse trop d'entraînement, trop vite, trop fort.
Salut à toi, je suis extrêmement heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et pour cet épisode, un format interview avec un invité qui est le plus jeune invité du LTP depuis la création du podcast. Mais en tout cas, vous allez le voir, il est jeune, mais il va vous apporter beaucoup d'informations et une vision de sa pratique du haut niveau à travers son prisme de jeune athlète. Juste avant de vous présenter cet invité, je souhaitais remercier la communauté des Patreons, ces fantastiques soutiens participatifs qui font en sorte de soutenir le LTP à partir de quelques euros par mois et que vous pouvez rejoindre sur Patreon, patreon.com/letstrylepodcast, et dans lequel vous pourrez intégrer cette magnifique communauté et profiter de contenus exclusifs, et notamment je vais vous mettre un petit extrait à la fin de cet échange d'un épisode spécialement consacré à l'actualité du trail et notamment au dernier championnat de France de trail qui ont eu lieu à Buis-les-Baronnies. Nous allons parler avec Alex Viol de cette actualité chargée et vous aurez la possibilité d'entendre donc un petit extrait juste à la fin de cet épisode. Allez, passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, donc je reçois un athlète du team Brook Stride Project et qui n'est nul autre que Jules Barriot. Il a 18 ans, il est originaire de Ney, dans le Jura, entre Genève et Besançon. C'est un ancien footballeur et vous allez l'entendre, il va nous expliquer un petit peu son histoire avec le sport, avec la course en montagne, avec le trail. Il est champion de France cadet de course en montagne à Reims-Marsous en 2022. Il a fait une troisième place au championnat de France de course en montagne pour sa première année en junior. Et il a fini 13e à Innsbruck sur les championnats du monde junior. Il a également remporté la course Sierzinal junior en 2022 et 2023. Et il a fini 2e de la fameuse Tiki de la Skyrun. Et à quelques jours de la sortie de cet enregistrement, il a le regard tourné vers les championnats de France de course en montagne à Briançon. Nous allons parler dans cet échange donc de son histoire de vie, de son intégration au sein du Brook Stride Project, qui est un projet qui a en charge l'accompagnement des sportifs de haut niveau et qui a été notamment lancé par le regretté Pascal Balducci. Et vous allez l'entendre, Jules nous partagera son expérience de tous ces sujets et je promets, vous ne serez pas déçus de ce que vous allez entendre, parce qu'il y a une très très grande maturité dans les propos de Jules, que je remercie une nouvelle fois d'avoir partagé au micro du LTP. Allez, je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette conversation avec Jules Barriot. Bonne écoute. Salut Jules, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Comment vas-tu?
Salut Nico, ça va très bien et toi?
Ça va, super, impeccable. Apparemment, là, encore une fois, tu vois, ça m'a surpris. Alors déjà, premièrement, je pense que, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûr, tu es le plus jeune participant au LTP, donc ça c'est un vrai honneur de te recevoir. On va parler de plein de choses, et puis en plus tu m'as dit que t'écoutais de temps en temps le LTP, donc ça c'est toujours quelque chose qui me fait énormément plaisir.
Ouais, non mais oui, j'ai déjà écouté plusieurs épisodes, c'est sympa.
C'est cool. On va parler de plein de choses. Tu as été sélectionné en équipe de France de course en montagne à Innsbruck. Tu as fait des belles performances sur Sierzinal récemment, sur la Tiki aussi à la Rune. On va parler de tout ça. On va parler aussi de la communauté du trail, de ta vision de jeune trailer, hein, parce que on rappelle, t'as 18 ans, je crois, c'est ça, mais tu vas nous l'expliquer un peu plus tard. Et puis on va parler aussi du Brook Stride Project, et puis un peu plus largement de la formation des jeunes trailers en France. Donc voilà, tu vois, le programme, il est assez chargé. Mais avant tout ça, avant d'attaquer et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui, moi, je m'appelle Jules Barrieux. Du coup, j'ai 18 ans. Là, je fais mes études à Besançon en STAPS et je pratique le trail maintenant depuis 2 ans. Je vais attaquer ma 3e saison. Et j'ai fait 11 ans de foot avant.
On rentre foot avant, c'est important de le dire, parce que d'après les petits contenus que j'ai vus, notamment sur YouTube, je crois qu'il y a, il y a Peigné Vertical qui a sorti un épisode du Brooks Trail Project, je mettrai les liens dans l'épisode, où effectivement ton papa et ta maman sont interrogés, ils parlent de cette période du foot où ça allait pas du tout, là, c'était... Enfin, pas du tout. Ça te plaisait plus. Donc, un gros passif de footeux, hein, un peu comme moi, un peu comme beaucoup. Mais encore une fois, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps pourquoi t'as voulu faire du foot et qu'est-ce qui t'a déplu au bout d'un certain moment?
Ouais, bah, du coup, j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans. Bah, tout simplement, au début, ce qui m'a inspiré, bah, c'était mon papa, qui était un footballeur, qui pratiquait encore. Et donc j'ai commencé au début et j'ai bien aimé. On faisait des petits entraînements à la ville à côté d'où j'habite à Champagnole. Et du coup après j'ai vite accroché. C'est devenu une passion pour moi. Et ouais, en étant plus jeune, je prenais beaucoup beaucoup de plaisir à pratiquer foot. Et après sur la fin, arrivé vers l'âge de 15, 16 ans, le Covid y a peut-être participé aussi, mais c'était même la mentalité me correspondait plus trop. Et moi, j'étais vraiment dans l'esprit de compétiteur et tout. Et après, c'est un sport collectif, donc il faut être aussi en accord avec tous ceux de son équipe. Et il y avait pas mal de choses, des relations avec les entraîneurs qui, des fois, n'étaient pas super bonnes avec le club, qu'on fait que, bah, à la fin, non, j'arrivais plus du tout à prendre plaisir.
D'accord. On va y revenir sur cette période de foot et de la prise de conscience un peu de ton envie d'aller voir un autre sport. Mais avant ça, tu peux nous préciser un petit peu le contexte. Alors, tu disais papa footballeur, maman sportive aussi. Est-ce que tu as des frères, des sœurs? Est-ce que tu peux nous situer un peu le contexte?
Ouais, bah ouais, mon père qui faisait du foot jusqu'à presque ses 40 ans. Après, il s'est fait les ligaments croisés, puis il a arrêté, c'était temps. Et ma mère qui fait, oui, un peu de sport la semaine, soit des footings, un peu plus quand j'étais petit. Maintenant, elle fait oui, un peu du renforcement musculaire, stretching, voilà. Et oui, j'ai un petit frère qui a 2 ans de moins que moi, qui fait du foot et qui en fait toujours.
Qu'en fait toujours. Ok, très bien, très bien. Il disait tes parents dans ce petit reportage que tu t'avais gagné à de nombreuses reprises le fameux cross du collège. Alors on l'a tous vécu, hein, ce cross du collège. Raconte-nous un petit peu ta participation à ces crosses. C'était quoi pour toi le cross à cette époque-là? Voilà, un petit peu comment ça s'est passé cette période.
Ouais, bah pour moi, le cross, j'ai commencé en CM2, bah via un copain qui était le fils du meilleur ami de mon père, et qu'en faisait quand on était petit. Et après, j'ai su qu'il en faisait, ça m'a accroché. En CM2, on avait un petit cross aussi de l'école. Et le tout premier que je fais avec l'école, ça se passe pas bien du tout. Je pars trop vite et après, j'avais des points de côté de partout. Je pouvais plus, j'arrivais pas du tout à gérer mon effort. Et après, de là, ça m'a un peu vexé à l'ego, parce que je savais que quand j'allais courir un petit peu avec l'école, j'étais un peu le meilleur de la classe. Et après, quand on s'est retrouvé avec d'autres classes, j'ai pas bien géré. Et de là, j'ai commencé à demander des petits conseils à ma maman, bah, comment on soufflait, comment elle faisait, tout ça. Et après, bah, du coup, je me suis inscrit sur des crosses des petits villages avec donc mon copain. Et là, le premier que je fais dans un petit village à côté, j'ai gagné. Et donc voilà, en appliquant quelques bons conseils, ça m'a permis de réussir. Et puis du coup, à la suite, bah, j'ai continué à en faire sur la période d'octobre, novembre. Et après, donc ouais, quand je suis rentré en sixième, bah, j'ai fait le cross du collège. Après, j'ai fait le cross départemental, régional. Ça se passait plutôt bien. Je faisais, oui, deuxième au collège, enfin dixième au département, tout ça. Et du coup, après, j'ai continué sur mes années de cinquième, quatrième, troisième. Et de là, j'ai commencé à gagner le cross du collège, départemental. Je faisais des bonnes places aux régionaux, tout ça. Mais à ce moment-là, je prenais pas vraiment plaisir. Enfin, c'était dur, en fait. Je prenais plaisir parce que j'étais fort, on va dire. Mais sur l'effort, j'aimais bien le goût de l'effort. Mais en même temps, ça me mettait beaucoup, beaucoup trop de stress, le départ. Quelque chose que j'arrivais pas à gérer du tout. Et ouais, je me rappelle d'une fois même où je pleurais le départ. J'avais peur, pourtant je savais que je pouvais bien faire. Mais ouais, j'aimais bien le côté résultat. Mais le départ, toute l'avant-course, que ce soit le jour d'avant, tout ça, j'étais trop stressé. Et c'est pour ça qu'on me disait de faire de l'athlétisme, tout ça, mais moi, je voulais pas.
Ah, ça te mettait une certaine pression. Donc, on voit déjà, d'après tes premiers exemples, là, que tu as été vexé lors de ta première entre guillemets contre-performance. On voit ton tempérament compétiteur, hein, ça c'est clair. Et puis, c'est hyper intéressant ce dont tu parles sur le départ en cross. Moi, je l'ai personnellement jamais vécu. Je crois que j'ai dû faire un ou deux cross quand j'étais plus jeune, mais je me rappelle pas trop. Effectivement, a priori, c'est particulier, hein, le départ en cross, c'est la guerre, hein.
Ouais, bah oui, parce que bah du coup en cinquième, ça se qualifie par équipe, donc avec le collège. Et on est allé jusqu'au championnat de France à Toulouse.
Ah oui.
Et là, bah pareil, j'étais beaucoup trop stressé. Enfin, je sais pas, je me renverse mon petit déjeuner de dessus. Je déjeune pas trop. J'avais rien dormi la nuit. Et puis à l'heure du départ, ça part. Et là, je fais deux foulées et je me fais un croche-patte avec chute devant et je tombe. Là, je me relève dans la boue, je lève la tête et je vois que je suis dernier. Il y avait ouais, 300 autres coureurs qui étaient partis. Et puis là, c'était une des seules courses avec la première qui s'est pas bien passée du tout. Et du coup, c'est bien, il y a des bons et des mauvais souvenirs. Et puis, je pense que ça venait de là après mon appréhension pour les départs.
Ouais, d'accord. Et cette période-là, tu faisais du foot en parallèle aussi, alors.
Ouais, c'est ça. Je faisais des crosses en plus. Donc c'était souvent le mercredi, ça me faisait louper un entraînement et voilà. Mais sinon j'étais à fond foot au collège. Ouais, on avait trois entraînements et puis un match le week-end. Et après au lycée, j'ai rejoint la section foot qu'il y avait dans mon lycée.
Ouais.
Et puis ouais, à ce moment-là, moi je voulais être professionnel quand j'étais petit, tout ça. Et puis voilà.
Et donc cette mentalité dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu peux préciser un petit peu pourquoi tu as décidé d'arrêter par rapport aux entraîneurs, par rapport au club, tout ça, moi je l'ai vécu aussi, hein, une mentalité un peu particulière qui s'est dégradée de plus en plus au fil des années, là, ces dernières années. Est-ce que tu peux nous préciser un peu ça?
Ouais, bien sûr. Bah déjà, j'ai réussi, on va dire, au fur et à mesure des années, après, quand il y avait des sélections départementales, régionales, à me qualifier pour les sélections, donc en U14, U15. Et là, en U15, je crois que c'était ma meilleure année. Donc, je jouais latéral droit. Voilà. Et je suis allé aux détections départementales. J'ai rejoint, on avait plusieurs des stages, un peu des sélections. J'ai rejoint l'équipe départementale. Après, je suis allé aux sélections régionales, du coup. Et j'en ai fait deux ou trois. Et au final, à la fin, on s'est retrouvés, c'était au Crêpes à Dijon, je crois. On était dans les 40 meilleurs de Bourgogne-Franche-Comté avec les 40 meilleurs avec les centres de formation. Donc, beaucoup de joueurs de Sochaux, tout ça. Et ouais, en fait. Là, c'était les seuls moments où je faisais du foot où je stressais.
Ah ouais.
Et les sélections, pourtant, les sélectionneurs qui étaient des très bons coachs et tout, essayaient de nous mettre dans de bonnes conditions, mais le rapport avec les autres est assez particulier parce que t'as que 13-14 ans. À ce moment-là, il y en a qui sont déjà dans des gros clubs. Pour eux, ils sont arrivés, ils sont au sommet. T'as un petit peu un sentiment d'infériorité parce que t'es dans un petit club, tout ça, mais en même temps, tu sais que t'as tes chances. Et en fait, tu te rends compte que t'es en décalage comparé à eux, t'as pas la même vie qu'eux parce que eux, tous les jours, ils s'entraînent, ils sont au foot, s'ils sont à l'école, c'est pour ça, pour faire du foot. Toi, t'as encore tes entraînements à côté de ton école, tout ça. Et en fait, eux, ils sont un peu plus avancés que toi, mais en même temps, toi, t'es là et t'as tes chances, mais. Pour eux, c'est un peu, ils te considèrent un peu comme,
Ouais, t'existes pas, quoi.
ouais, voilà. Et puis la mentalité, je retrouvais pas vraiment avec les sélections des joueurs avec qui j'avais un très bon feeling, tout ça. Ouais, c'était, il y en a qui étaient assez, je sais pas comment dire, mais un mental très égoïste. Des fois, qui pouvaient être vulgaires, tout ça. C'était pas que de la très bonne entente. Après, j'ai pas. Pas eu vraiment de mauvais souvenirs. Mais voilà, déjà cette mentalité-là, je me suis rendu compte, je me suis dit, moi qui voulais faire du haut niveau dans le foot, et bah, force
T'étais en
de.
décalage dans ce monde-là, quoi.
Ouais, c'est ça, je m'y retrouvais plus, je m'y retrouvais pas en fait. Je voulais faire du haut niveau, mais en côtoyant des jeunes comme moi qui étaient dans les centres de formation et tout, c'est pas. Je me disais que en même temps, c'était pas là où j'allais prendre le plus de plaisir, même si j'étais très très compétiteur.
Très passionné aussi, d'après ce que tu disais. Tu étais passionné de ce sport et ça
Ouais.
t'a fait quoi? Ça t'a fait l'effet d'une douche froide de te rendre compte de la mentalité qu'il y avait dans ce milieu-là à haut niveau?
Ouais, un peu ça, toute une remise en question, un peu. Enfin, une sorte de remise en question, mais après il y a eu surtout un élément déclencheur, c'est que du coup quand j'avais 16 ans, j'ai été repéré par un club qui était un bon club, qui avait leur première qui est en National 2, Louhans-Cuiseaux du coup. Et là il m'avait promis voilà une bonne équipe tout ça avec son de mon âge qui était après pour l'année d'après en U17. Et mon club de l'origine, et les coachs qui allaient me coacher l'année d'après m'ont promis de me surclasser, qu'ils allaient faire une très bonne équipe, tout ça. Et du coup, j'avais fait des tests dans le club de Louhans, tout ça, pour la section. J'hésitais. Et au final, ils m'ont regardé droit dans les yeux, les coachs de mon club, et ils m'ont dit qu'ils allaient faire une équipe, puis ils m'ont donné les joueurs, tout ça. Et pour moi, il y avait un meilleur niveau à Champagnole, dans mon club de base, et que j'allais être en plus surclassé. Enfin, et j'avais décidé de rester. Et puis j'ai un copain qui était dans le même cas que moi, mais qui est parti. Et au final, après on se retrouve, on fait la rentrée en août. Et en août, il manquait peut-être la moitié des joueurs.
Ah ouais.
Ouais, on n'était plus que 13. Et on a commencé la prépa, tout ça. Et au final, une semaine, le 25 août, une semaine avant la reprise, ils nous ont dit, bon, réunion d'urgence, on annule tout, on fait pas d'équipe U18. Vous, les meilleurs 18, enfin, vous allez avec les seniors, et puis on fait une équipe U17, et là, je me suis retrouvé à jouer avec les 1 an de moins que moi. Et j'avais déjà signé ma licence, tout ça.
Ouais,
Impossible de.
pris au piège, un peu trahi, quoi.
Ouais,
Beaucoup
pris au
trahi même.
piège. Pas mal de réunions avec le directeur, coach du club. Et rien à faire, ils voulaient pas changer, et oui, ils s'excusaient, tout ça, mais pour eux, ils n'avaient pas le choix. Enfin, après, voilà, moi j'en ai vu des équipes qui ont déjà fait des saisons avec un nombre limité de joueurs. Mais de là, il y avait déjà pas mal de choses qui me saoulaient un peu parce qu'on ne me faisait pas jouer au poste que moi je souhaitais, tout ça. Et bref, ouais. Mais là, à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire du tout. Enfin, moi, le trail, je ne connaissais encore pas. Enfin, je connaissais pour les adultes, mais pas pour les jeunes.
T'avais fait quelques crosses, mais le trail pour toi, ça existait pas,
Ouais,
quoi.
voilà. Moi, je faisais des courses, c'était plus des crosses ou une ou deux courses nature. Et bref, à ce moment-là, j'étais dégoûté. J'étais encore en section, je voulais plus aller aux entraînements. Enfin, puis quand j'y allais, je prenais pas de plaisir du début à la fin. Ouais, il y avait un gros froid avec les coachs. Ouais. Et ouais, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais fait 11 ans de foot, 11 ans, enfin 10 ans où j'avais vraiment quand même pris plaisir, même si ça se dégradait sur la fin. C'était vraiment ma passion. Puis là, j'étais un peu au fond du trou, en fait. Même rejoindre l'autre équipe, ça aurait pas pu être possible à ce moment-là. Mais même là, je sais pas, je m'y retrouvais plus. J'étais plus avec les valeurs qui me correspondaient dans ce sport, vraiment. Et du coup, après, si tu veux que je t'explique
Bien
comment je suis
sûr,
venu au travail,
complètement. Non, mais ce que je comprends là, c'est dans cette situation-là, c'est qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs éléments un peu chronologiques en même temps qui se sont additionnés et qui ont fait que t'as gardé à droite, à gauche. Je parle pour toi, hein, mais tu me dis si je me trompe. Et là, tu dis, mais en fait, ce sport, il n'est pas fait pour moi. C'est pas mes valeurs. C'est pas. Et c'est une déception. Ça doit être une grosse déception. En plus, tu avais beaucoup d'espoir pour ce sport-là. Et là, t'arrives à faire la bascule, à faire une croix dessus assez rapidement ou c'est dur?
Pas vraiment. Après, au début, pas vraiment. Mais après, en fait, je me suis vite rendu compte, mis à l'évidence que, enfin, la saison avait déjà commencé. J'avais contacté des clubs, mais bien sûr, on me proposait des clubs, mais qui n'étaient pas avec un très bon niveau. Enfin, au niveau régional, on me proposait des clubs un peu plus départemental. Enfin, c'est pas ce qui m'attirait. Je voulais pas reprendre ma retraite de foot encore maintenant. Et du coup, j'ai contacté des clubs des bons niveaux régionaux, mais pareil, leur effectif était déjà fait, tout ça. Donc, je me suis vite rendu compte que, il n'y avait pas de solution. C'était soit je continuais avec le club là, soit j'arrêtais. Mais pour moi, arrêter, enfin, je faisais du sport depuis petit, je voyais pas ce que j'allais faire. Il y a eu un coup, je me suis dit, bah oui, je suis bon en course à pied. Ok, mais l'athlétisme, ça m'a jamais tenté. Puis c'est pas parce que là, j'allais arrêter foot que ça allait me tenter. Mais du coup, j'ai commencé, j'ai fait 2-3 matchs. Mon père m'a dit, bah essaye, on verra si ça te va. Ouais, les 2-3 matchs, non, ça m'a pas plu, c'était de pire en pire. Et donc, non, là, à ce moment-là, après, je me suis dit, non, je préfère arrêter que continuer là, parce que c'était même pas, il n'y avait aucun plaisir, et puis c'était plus d'envie du tout.
Et donc c'est à ce moment-là que tu découvres le trail, tu l'avais découvert avant, ou explique-nous un petit peu le contexte là.
Et bah, du coup, à ce moment-là, je vois qu'il y a un week-end, je crois que c'était mes parents, mon papa, qui doit me dire, bah, ce week-end, il y a le Cross des Commères, ça s'appelle. Donc c'est une petite course dans un village à côté de chez moi. C'était la première course que j'avais faite et que j'avais gagnée. Donc le cross, à part les crosses des écoles, que j'avais faite quand j'étais petit, je l'avais faite plusieurs fois. Et c'était la première année là où je pouvais faire avec les adultes. Et il y avait soit un 6 km ou un 11 km. Et du coup, je décide de... Je me dis, ouais, bah, ça peut être sympa, j'ai
T'avais quel
envie
âge
de...
là? 16 ans, 17 ans?
Ouais, 16 ans.
16 ans?
16 ans, c'était au mois d'octobre 2021. Et du coup, je me dis, bah allez, ouais, je vais m'inscrire sur le 6 km. Enfin, voilà, à ce moment-là, enfin, le dénivelé, je n'avais pas aucune idée. Après, ouais, je crois qu'il y a 100, 150 mètres,
Ah,
voilà.
quand même.
Mais oui, il y a quand même une montée, mais sinon, c'est roulant. Et du coup, je m'inscris, je dis, bon, bah, je n'irai pas au foot là, ce week-end, de toute façon, j'en ai plus envie. Et puis je fais la course et au final je la gagne contre c'est la première fois je courais contre des adultes donc moi je me suis un peu impressionné tout seul je me suis un peu étonné pareil pour mon père qui discutait avec ses amis qui étaient organisateurs de la course tout ça ils avaient misé une pièce sur moi bah pas mon papa mais au final c'est moi qui suis arrêté en premier et bref du coup
Sans
à l'arrivée
préparation, sans rien du tout.
ouais c'est ça bah j'avais fait On avait fait une bonne préparation l'été avec le foot, mais oui,
Pas
j'ai pas.
spécifique, pas
Non,
spécifique pour le trail, pour
j'allais
le
courir
cross.
une ou deux fois sur le parcours pour le voir. Non, non. Après, oui, j'avais quand même des. J'avais le meilleur test VMA de mon club, donc j'étais quand même bon en endurance depuis tout petit. Et après, ensuite, à l'arrivée, je vois Théo Bourgeois. Si tu connais,
Je
ouais.
connais, très bien. Salut Théo, s'il nous écoute. Je sais pas s'il nous écoute, mais effectivement,
Ah,
il est encore
il
chez
est
Brooks,
pas sûr.
Théo.
Ouais, c'est ça. Et bah lui, à ce moment-là, il était dans le Brooks Strike Project encore. Et lui, il habite de mon village, donc je le connais depuis que je suis petit. Nos
D'accord.
parents se connaissent.
Il est un peu plus vieux que toi, par contre.
Ouais, il a 50 plus.
50 plus, d'accord.
Et du coup, lui, il a fait du foot dans le même club que j'étais. Il était gardien. Mais voilà, plus grand, donc je le voyais quelques fois comme ça. Et après, j'avais su qu'il s'était mis à courir. Mais je savais encore pas trop. Je savais que c'était du trail en nature, mais je savais pas trop à quoi ça correspondait exactement. Et du coup, je l'avais recroisé sur un ou deux cross UNSS, comme ça. Et là, il était à l'arrivée. Il me dit, oh, bah dis donc, je vois que tu cours encore bien, Jules. Le team où je suis, là, il y a des détections qui sont dans un mois. Si ça te dit, tu t'inscris et puis tu peux les faire. Et moi, à ce moment-là, je dis bah ouais, enfin, carrément, j'ai rien à perdre. Et du coup, un soir après, plus tard, quelques jours plus tard, il m'envoie le formulaire à remplir. Et puis après, je commence à regarder pas mal de vidéos sur YouTube de ce qu'ils font, sur Instagram. Et ouais, je vois que ça me plaît bien parce que c'était quelque chose qui était en accord avec le haut niveau. Pour aller être plus performant. Ça a l'air d'être vraiment cool, une bonne ambiance où on peut prendre plaisir. Et donc là, je me dis, bah allez, je m'inscris. Et je me dis maintenant, faut que je sois pris. Théo, il m'avait dit, si tu as la même forme que le jour de la course, je pense que tu peux être pris. Et maintenant, je me dis, de toute façon, c'est soit, dans tous les cas, j'arrête le foot. C'est soit après ça m'ouvre des portes pour faire une nouvelle discipline, découvrir un nouvel environnement, ou il n'y avait pas vraiment de plan B, hein, c'était soit rien. Donc maintenant, après, j'étais concentré sur ça. Je me suis fait quelques entraînements une ou 2 semaines avant, mais sans connaissance. Hein, on met les baskets, puis on part à fond, et voilà. Et puis après, on arrivait aux détections, et voilà, on commence par le test VMA. Et là, je fais premier du test avec un autre.
Ah oui.
Et
vous étiez combien à la détection? Une dizaine? Une dizaine, non, je crois que c'est ça.
On était 21.
21, ouais, ok.
Ouais. Et bah, le test VMA, je savais que j'étais bon, parce qu'on en avait fait pas mal au foot, mm-hmm. en préparation. Mais là, j'avais fait ouais, un bon test, j'avais dû faire 20, 20 et demi. Mm-hmm. Et après, test en montée et test en descente. Montée, j'en avais fait quelques-unes chez moi, parce que des fois, quand j'allais courir avant, mm-hmm. j'avais une petite montée. Ouais, là, je fais pareil, des bons tests. Quatrième, descente, j'avais jamais fait de descente à fond. Là, il y avait Théo détection, il m'a donné des petits conseils, il me dit bah de toute façon là c'est une descente, tu débranches le cerveau, tu vas à fond. Ouais, du coup
ça, moi, d'accord, ça me va bien.
Moi ça m'allait, ça me parlait. Donc voilà, ouais, je fais deuxième, et puis le lendemain on avait un parcours trail et je fais deuxième aussi.
Ouais.
Et après on a eu voilà un entretien individuel. Et puis là, du coup, j'avais fait des bons tests. Il savait à peu près qui allait prendre. Mais par exemple, avec moi, il voulait s'assurer que si jamais j'intégrais le team, que j'allais pas retourner au foot, même mmh. si un bon club m'appelait, tout ça. Et moi, à ce moment-là, de toute façon, j'avais réfléchi. Et c'était non, non, moi, je veux rejoindre le team. Et puis rien d'autre. Donc, il y avait plus de foot dans ma tête. Maintenant, c'était ouais, aller faire.
T'avais tourné la page.
Ouais, voilà.
Et alors, tu es en train de me dire que tu as été sélectionné dans le team Brooks Trail Project, qui anciennement s'appelle le Grand Besançon Trail Academy, qui a été créé en 2015. On va en parler plus tard. Mais donc, tu as été pris dans ce team-là, et tu n'avais jamais couru de trail? De vrai trail?
De vrai trail, non, non.
Ah, ils t'ont détecté vraiment précocement. Alors, avant.
Ouais, ont... bah ouais, parce que ouais. Quand le dernier jour des tests, quand on fait le parcours trail. Ça montait quand même, il y avait 5 km avec 400 dénivelés, ouais. Hein, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Ouais, il y avait deux montées de 200 dénivelés. Moi, j'avais la plus longue montée que je faisais, c'était 150 et voilà. Mm-hmm. Et ouais, j'avais jamais fait ça, je me rappelle que j'avais souffert, mais j'avais serré les dents, le goût de l'effort, se donner à fond jusqu'à la fin, ce que j'aimais. Mm-hmm. Et puis voilà, du coup ça m'avait plu.
Apparemment, d'après ce que j'ai lu, il y a eu un entretien avec les parents, c'est vrai?
Ouais, ouais, ouais. En fait, l'entretien était en deux parties. C'était au début, donc ils étaient deux, trois du staff. Mm-hmm. Au début, j'allais tout seul, donc pour pas qu'il y ait, mm-hmm. comment dire,
d'interférence, de... ouais. De...
Voilà, avec mm-hmm. les parents, pas de dérangement, mm-hmm. voilà. Mm-hmm. Et du coup, voilà, il me posait des questions voilà, très personnelles sur moi, enfin sur mon envie, tout ça, mes motivations. Mmh. Et après, les parents qui venaient, et voilà.
Et donc, on a compris que tu rentres dans ce team. C'est quand même étonnant. Alors, c'est sur la base de tests, d'entretien, de motivation. J'imagine que tu as dû créer un petit dossier, ou je ne sais pas exactement, mais... Pas,
bah, pour le formulaire.
Hein. Voilà, pour remplir le formulaire, etc. T'as pas réellement de performance tangible sur des courses, etc. Alors peut-être le cross dont tu parlais tout à l'heure a fait aussi office de référence un peu chronométrique aussi pour eux. C'est intéressant de voir que vraiment il y a eu une détection ultra précoce et même avant que tu aies participé à tes premiers trails. Et ce team, il est vraiment axé sur le trail et la course en montagne. Comment ils t'ont vendu un peu le projet là?
Ouais, nous, ce qu'ils nous ont vendu, c'était qu'ils voulaient nous amener vers le haut niveau. Mmh. En jaugeant nos potentiels, nos différents potentiels au début. Donc le but, c'était pas forcément d'être le plus fort aux détections, c'était pas d'avoir les meilleures performances, tout ça, mm-hmm. mais c'était surtout ce qu'ils voyaient en nous pour l'avenir. Mm-hmm. Donc dans le staff, ouais, il y avait donc Trooper, qui est le manager, Sébastien Joanneau, mm-hmm. Le coordinateur sportif Jérémy Chapuis et le coach Pascal Balducci, du coup. Mm-hmm. Donc ouais, Pascal qui était un très grand coach, il analysait tous les tests, il les épluchait. Pareil pour les courses, et au final ils arrivaient à avoir comme ça nos potentiels et pour les futures années. Donc Voilà, pour eux, c'était de prendre ceux qui pouvaient aller le plus loin, mais que ce soit aussi sur les capacités physiques, mentales, en fonction de la motivation, ce qu'ils voyaient en nous, sur notre envie. Et du coup, le but, c'était de nous accompagner, le plus tôt possible, mais pas trop. Enfin voilà, en cadet, il n'y avait pas vraiment de plus jeunes encore qui faisaient de la course en montagne. Mais du coup, le plus tôt pour qu'on évite ces grosses erreurs de surentraînement, tout ça. Et
Pour
après, nous
vous inculquer
accompagner.
les bases, quoi. Les bases un peu
Voilà, ouais.
générales
Les...
de l'entraînement et de.
Ouais, c'est ça. Et eux, ils voulaient surtout pas qu'on se crame. C'était surtout pas qu'on fasse trop d'entraînement, trop vite, trop fort. Et le but de nous former sur toutes nos années de jeunesse jusqu'à fin d'année espoir. Mais voilà, ils recrutent entre la première année de cadet et première année de junior. C'est le team qui recrute en France le plus jeune.
Donc qu'on comprenne un petit peu, tu rentres dans ce team-là, il y a tout un tas de tests physio, j'imagine des tests en laboratoire, etc. Même sur le terrain, j'imagine, tu peux, pas forcément. Tu peux nous expliquer un petit
Oh.
peu ce qu'ils mettent en place comme test pour déterminer un peu le profil physio?
Bah, après, une fois qu'on est rentré dans le team, ouais, on était quatre, donc une fille, trois garçons. Et là, en tout, on était sept dans l'équipe, du coup. Avec ceux qui étaient en allée ou qui étaient allés dans le team élite comme Théo. Et du coup, bah, par exemple, pour commencer l'entraînement, la base d'entraînement, ce qui servait à Pascal, c'était donc déjà les tests de sélection. Car ils font, toutes les années, ils essayent de faire, ils font les mêmes tests.
Bien
Voilà.
sûr, pour les comparer entre eux, tout...
Voilà, ouais, même si les terrains, des fois, sont différents, mais voilà. Il y a le test VMA qui ne change pas. Les tests en montée, ils trouvent les mêmes bosses. Et donc, déjà, ça lui faisait une base de travail. Et après on commence les entraînements donc c'était oui j'ai été pris en novembre le test est en novembre et on commence fin d'année fin 2021 fin décembre on commence les entraînements et du coup là ils font assez vite en visio enfin voilà on les appelle ils nous expliquent pas mal de choses que ce soit ils nous mettent dans des groupes WhatsApp dans le groupe WhatsApp la communication sur Instagram comment ça se passe avec Brooks la marque. Et la planif de la saison, donc quelles courses on va faire. Et voilà, les crosses, ça commençait assez tôt, par exemple. Et non, il n'y a pas vraiment de tests physiologiques, enfin, tests d'effort, tout ça. Ça, il y en a qui en ont déjà fait, des coureurs qu'en font. Enfin, j'en ai déjà fait, par exemple, avec Pascal l'année dernière. Mais voilà, la première année, ça peut être utile, mais
C'est
c'est pas
pas
forcément.
indispensable.
Le but tout de suite, en fait, vaut mieux déjà acquérir les bases, les choses simples, et après pousser un peu plus la recherche.
Donc là, ce que j'aimerais comprendre, c'est que tu arrives dans ce team-là, tu as pour la première fois un entraîneur qui est Pascal, qui te donne des plans d'entraînement, etc. Ça te fait quoi, du coup? Ça te plaît? Tu trouves ça dur? On sait que les séances de Pascal, parfois, ça peut être un peu compliqué. Raconte-nous un petit peu comment tu le. C'est quoi les premiers moments
Ouais,
d'entraînement?
bah déjà à ce moment-là, je connaissais rien. Hein. Moi, quand j'ai des détections, je savais pas qui était Kylian Jornet. Enfin, si mon père m'en avait parlé peut-être un peu avant, mais sinon je connaissais pas d'autres trailers, je connaissais pas vraiment les
Je connaissais
formats.
Théo Bourgeois.
Oui. Théo Bourgeois, c'était lui, c'était le grand frère. Non, mais Théo, il m'a bien aidé au début parce que du coup, on a fait des footings ensemble, année. Et il m'expliquait, il m'a vraiment bien expliqué la vision du team et où lui il en était et voilà ce qu'il fallait faire pour réussir quoi dans ce sport. Et il m'a expliqué beaucoup de choses quoi en prenant des exemples tout ça. Et donc oui, le but c'était vraiment la formation sur le long terme. Et puis moi j'étais hyper curieux de connaître ce sport tout ça sur les entraînements de Pascal enfin comment ça se passait et du coup il m'expliquait enfin tout en fait les retours ce que je devais lui faire si je comprenais pas quelque chose bah voilà un peu à qui demander comment faire les séances sur quoi je pouvais progresser voilà comment les professionnels enfin comme Thibaut Barignan est arrivé là leur histoire. Ouais, c'était hyper intéressant de connaître un peu tout le monde parce qu'on se rend compte qu'au final, on a tous des parcours différents, qu'on progresse pas tous au même moment. Donc, ouais, il m'a expliqué ça. Il m'a dit, Enfin, voilà, t'auras ta progression à toi et ça sert à rien de se comparer aux autres. On est tous différents. Mais le but, c'est de, ouais, c'est de s'intéresser et de comprendre et puis de faire confiance surtout. Parce qu'il m'a expliqué que Pascal, c'était un des meilleurs athlètes dans sa génération quand il était jeune. Et là, c'était le meilleur ou voire un meilleur des coachs, que ce soit français hein, ou mondiaux dans le monde. Et il m'a dit, fais confiance à Pascal, et il m'a expliqué sa vision, que voilà, le but, c'était de s'entraîner en préservant vraiment la qualité et la quantité. Et que Pascal, lui, il allait tout réfléchir pour faire en sorte qu'on soit le mieux possible au bon moment, enfin voilà, qu'on arrive sur le bon pic de forme et que ça soit bénéfique pour notre progression pour plus tard. Et donc après, voilà, ma relation avec bah, les membres du staff, tout ça, ça se passe bien. Et voilà, on prend connaissance des choses. Et puis petit à petit, voilà, je commence à demander des conseils à Pascal, à m'intéresser. Il commence à me parler un peu des différents seuils d'intensité, tout ça. Et puis je me suis bien intéressé à l'entraînement. Et il m'a expliqué beaucoup de choses et j'ai compris voilà, des choses très vite. Ça m'a servi pour m'entraîner et puis vite progresser. Ouais.
Donc tu découvres un monde de l'entraînement, la performance, etc. Je pense, j'ai l'impression de manière un peu globale, c'est-à-dire avec bah, la culture du trail, on reconnaît bien là Pascal et j'imagine toutes les équipes qui bossent au Brooks Trail Project. Donc c'est une approche globale et d'après ce que je vois, c'est quand même ça qui est mis en avant, notamment dans beaucoup de teams des jeunes générations. C'est une approche pour former des athlètes, certes, mais aussi des bonnes personnes, quoi. Donc, on a une approche globale. J'imagine qu'on s'intéresse un petit peu à vos études, etc. Tu confirmes, c'est vraiment ça, c'est général.
Ouais. Non, mais oui, vraiment, ce qu'ils nous ont toujours dit, c'est nous, on forme des athlètes, mais avant tout des humains. Voilà, il y a enfin, plein de notions du savoir vivre ensemble, tout ça, qui sont hyper importantes pour eux, qui sont la priorité. Et voilà, ils nous forment dans l'ensemble, dans la globalité des choses, hein. Il n'y a pas que l'entraînement, il y a, enfin, que ce soit toute l'approche mentale, enfin, des compétitions, comment on s'entraîne et qu'on gère avec l'école, voilà, nos notes à l'école, la relation avec notre famille, nos amis. Voilà, et eux, le but, c'est que tout se passe bien et pour qu'on progresse pour le mieux.
Tu disais tout à l'heure que tu avais. Alors, je sais pas si j'ai mal compris, mais tu disais peut-être qu'il te disait un petit peu les courses à courir. Comment ça s'est passé dans les premiers temps? Est-ce qu'ils t'ont un peu aiguillé sur le choix des courses? Parce que tu le disais tout à l'heure, tu connais pas le milieu à l'époque où tu rejoins le team. Est-ce qu'on t'aiguille un petit peu sur le choix des courses ou est-ce que c'est toi qui décides? Comment ça s'est passé au début?
Au début, ouais, pour le calendrier des courses, bah, il nous présente les différentes courses sous forme d'objectifs. Donc, il y a les objectifs principaux qui sont sur bah, le tableau Excel en rouge avec les dates. Et après, il y a des objectifs en gros secondaires qui sont des courses de préparation et puis des courses comme ça qui peuvent nous servir dans la saison. Et donc, ouais, les objectifs principaux qui sont les grosses courses avec le plus de niveau chez les jeunes. Celle-ci, le but, c'est de toutes les faire pour qu'on puisse découvrir bah, toutes ces courses et découvrir voilà le haut niveau. Donc après, bien sûr, c'est pas forcément possible d'arriver toujours en pic de forme aux courses, mais ouais, il y a les principales qui sont bah, les championnats de France, la YCC, Sierre Arsenal. Et donc, au début, la prépa hivernale, c'est un peu pareil pour tout le monde. C'était les crosses. Après, voilà, on a notre mot à dire, bien sûr, sur la prépa, tout ça. Mais bon, pas grand monde y connaissait quelque chose. Et puis moi, encore moins. Donc,
Il fallait se faire aiguiller, bien sûr, bien évidemment.
ouais, moi, je faisais de toute façon totale confiance à eux à ce moment-là. Je savais que si je leur faisais confiance, tout allait bien se passer. Donc, moi, j'avais pas de peur, hein.
Et par rapport à ceux qui étaient avec toi, donc tu disais vous étiez quatre, une fille et trois garçons, c'était quoi un petit peu l'ambiance? C'est des gens qui viennent d'où? Pareil, est-ce qu'ils s'y connaissent un peu plus en trail que toi ou en course en montagne? Comment ça s'est passé là les premiers temps avec tes nouveaux camarades?
Bah alors, du coup, il y en avait trois des années précédentes. Trois garçons. Donc, eux connaissaient bien le milieu. Et donc, deux autres garçons et la fille, Loane. Loane, elle vient du ski alpinisme. Elle avait déjà des sélections en équipe de France. Et elle faisait un peu de trail, mais pas vraiment en compétition, je crois. Donc, voilà, elle voulait s'y mettre. Mais elle connaissait quand même bien le milieu de la montagne. Elle habite en montagne. Après, il y avait Antonin, lui, qui vient de Tours. Ouais, il courait déjà pas mal. Il faisait de la course d'orientation, mais voilà,
Antonin,
lui,
comment?
Antonin Pivry.
Tu peux répéter, pardon, ça a
Et
coupé.
Antonin Pivry.
Pivri, ok.
Et du coup, voilà. Bah, après, personne n'avait les notions du haut niveau dans le trail. Donc, et après, il y avait Victor Lagarde, qui venait de l'athlétisme. Donc, oui, il connaissait plus de choses que moi, mais pas beaucoup non plus.
Très bien, très bien. Et donc, alors d'après ce que je vois là, c'est on se dirige gentiment vers le championnat de France de course en montagne cadet à Reims-Marsous en 2022, je crois. Est-ce qu'il y a eu une course avant ça ou est-ce que c'était ton premier fait d'armes?
Non, bah du coup, j'avais fait la prépa des crosses, j'avais fait le cross départemental, régional, interrégional et championnat de France, j'avais fait les quatre. Ouais, c'était bien passé. Bah ouais, le premier cross, bah c'était la première course avec l'équipe là. Je fais deuxième à 3 secondes de Côme le Baron, qui fait champion de France minime de cross l'année d'avant. Donc ouais, là j'étais assez épaté. Assez épaté par ma course, parce que c'était ma première course comme ça, et c'était déjà assez haut niveau. Et après, jusqu'aux France, je fais 50e. Et après, je fais deux trails de préparation. Le trail Nou, hein, le premier où je fais deuxième. Et après, je gagne 10 km du trail d'effort à Besançon. Donc là, je fais une grosse performance, parce que voilà, je bats des bons coureurs. Et après, oui, ça arrive assez vite en mai, le championnat de France, qui était le premier objectif, du coup. Et à ce moment-là, moi, j'avais pas conscience du niveau national des autres jeunes qui avaient mon âge dans le travail.
Et donc, tu arrives à Reims-Marsous et tu gagnes le championnat de France cadet.
Oui, mais bah, j'avais confiance en moi, mais on m'avait dit que tout pouvait arriver. Il pouvait y avoir des jeunes très forts qui sortaient de nulle part. Comme moi, j'étais un jeune sorti de nulle part. Donc, au final, c'était un peu l'inconnu, cette course, en fait. Je connaissais pas mes concurrents, à part ceux de mon équipe. Et donc, voilà, oui, je fais la course. Je fais une bonne course. J'arrive à gagner. Mais, ouais, ça aurait pu se passer plein de manières différentes. Ça dépendait, à ce moment-là, ça dépendait de moi, mais aussi des autres concurrents.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que la course en montagne, on est d'accord, hein, c'est quand même très engagé, souvent, c'est le principe, hein, c'est-à-dire des formats courts avec un niveau de technicité qui est assez élevé. Toi qui n'es pas trop habitué à courir en trail, etc., qui a peu d'expérience et tout, qui habite pas forcément dans un milieu montagneux non plus, tu arrives à damer le pion à tous les autres sur un terrain. C'était quoi? C'était technique, Reims-Marsous ou pas?
Non, pas
Non.
vraiment. Il y avait deux, trois passages en descente où c'était un peu caillouteux, mais non, c'était pas vraiment technique. Après, il y avait du dénivelé, il y avait plus de dénivelé que j'avais l'habitude d'en faire. Mais après, durant la préparation, on avait aussi deux stages, donc un premier stage en janvier de regroupement, comme ça, Besançon. Et après, on avait fait un stage pour justement la préparation de ces championnats de France, qui était vraiment en milieu montagne. Et je sais plus où il était d'ailleurs. Si, il était dans le Diois, il me semblait. Et ça nous avait quand même bien préparé à quelques semaines de l'objectif, faire monter la forme. Et du coup, à ce moment-là, je commençais à m'habituer quand même au trail.
Et qu'est-ce que ça change pour toi, cette victoire sur le championnat de France à Reims-Marsous en cadet là?
Et bah ouais, ça a changé beaucoup de choses, parce que bah pour la première année champion de France, pour moi c'était déjà un peu le Graal, parce que je connaissais pas vraiment la réputation des autres courses comme Sierre-Zinal, la Grecque-Cécé, tout ça, et qui sont des courses en fait avec un niveau international. Mais du coup, champion de France, c'était bah, le maximum que je pouvais faire déjà pour une première année. Et puis, faire ce résultat-là en 6 mois, ouais, c'était énorme. Et bah, après, je pense que la plus belle récompense à la suite de cette course, c'était d'être qualifié du coup pour la bah, Coupe du Monde cadet avec l'équipe de France. Du coup, ouais, ça me fait découvrir pas mal de choses. Bah, ça m'apporte en visibilité aussi. Ça me fait connaître parce que bah, quelqu'un qui sort de nulle part, qui n'était pas annoncé comme dans les favoris, tout ça, qui fait champion de France. Oui, après, je savais aussi que c'était que j'étais que en année cadet. C'était un bon début, mais il n'y avait rien de fait.
Qu'est-ce qui se passe après au niveau chronologique sur les courses, concernant les courses, après cette victoire au championnat de France? Qu'est-ce qui se passe? Sur quoi tu t'alignes? Explique-moi un petit peu comment ça se passe par la suite.
Et bah du coup, 2 semaines après, je devais faire le 10 km du marathon du Mont-Blanc. Mais c'était le même jour où il y avait du coup la Coupe du Monde de course en montagne cadet à Saluzzo en Italie. Donc bah, je jouais avec l'équipe de France pendant quelques jours. C'était un parcours ouais, assez mixte entre montagne, cross et urbain. Donc c'était bien, c'était sympathique. Et je fais 13e. Donc ouais, je fais une bonne course.
Donc la première fois, c'est à ce moment-là que donc le championnat de France te donne la possibilité de participer à cette Coupe du Monde. La
C'est ça.
première fois que tu mets sur le dos un maillot tricolore, là.
Ouais, c'est ça.
Ça fait quoi?
Donc voilà, c'était quand même une grande fierté. Ouais, ça change de dimension parce que le but c'est qu'on t'amène dans le haut niveau. Et puis en soi, là, tu te dis le fait d'avoir le maillot d'équipe de France, même si c'est l'équipe de France jeune, t'as quand même l'impression d'y être dans le haut niveau, même s'il y a encore plein de choses à apprendre. Mais voilà, c'était super. En plus, on fait un podium par équipe, on fait 3e. Donc, on fait rayonner la France. Et puis après, bah, la saison, elle continue. Donc, après, il y a une coupure. Un peu au mois de juillet, il n'y a pas vraiment de course. Et après, je fais Sierre-Zinal mi-août. Et là, bah, là,
La
pour un.
version, la version junior, hein. Tu peux préciser un petit peu le
Ouais.
format, s'il te plaît?
Sierre-Zinal junior, ouais, c'est ça, qui est du coup 19 km, 600 de dénivelé positif et puis 800, 900 de dénivelé négatif.
Ok.
Et voilà, moi, j'avais jamais couru 19 km, comme j'avais jamais couru plus de 10 km quand j'avais fait des élections, quoi. Mais du coup, je pars un peu dans l'inconnu, mais le staff, enfin, Jérémy, Trooper, Pascal nous explique toujours bien ce qu'il faut faire, en fait, comment gérer notre effort. Faut pas que ça soit la distance qui nous inquiète. De toute façon, ils ont de l'expérience. Le team, ça faisait plus de 7 ans qu'il avait été fait. Il y en avait des jeunes qui étaient passés par cette course, tout ça. Donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière à se faire. Fallait juste écouter leurs conseils, prendre le bon de ce qu'ils disaient. Et puis voilà, après se lancer. Mais ouais, après, c'était bien parce que je courais contre, du coup, les juniors, 1 et 2 ans plus que moi. Il y avait quand même 2, 3 Anglais, Italiens. Donc, ça, il y avait un gros, gros niveau. Et après, bah, cette course, je pense que cette année, c'est ma plus belle performance que je fais, peut-être avec la Coupe du Monde, mais
En 2022,
c'était,
hein.
ouais, en 2022, en cadet, du coup. Et je fais cinquième, du coup, au scratch. Devant, bah, il y a que
Que les
des jeunes
juniors.
qui ont 2 ans de plus en, ouais, 2 ans de plus que moi, qui sont en équipe nationale d'Italie, d'Angleterre. Il y avait les trois internationaux, bah, français, du coup, Anatole Berthoud, Antonin Théron, puis Emilien Simoneau, je crois, qui était sur la course. Je bats des gars qui ont 1 an, 2 ans de plus que moi, qui sont en équipe de France aussi. Je me dis, ouais, la performance est quand même très
Solide,
bonne.
c'est solide.
Ouais. Et du coup, à ce moment-là, je m'épate et je me dis que je suis sur le bon chemin, faut que je continue. Je sais que à ce moment-là, c'était le trail pour moi, c'était vraiment devenu le sport pourquoi je vivais, pourquoi je m'entraînais. Si on s'entraînait quasiment tous les jours, pour moi, c'était ça parce que j'étais compétiteur, je voulais performer. Je faisais attention bah, à beaucoup de choses, la nutrition, le sommeil, enfin pas trop sortir avec les copains, tout ça. Et je voyais que les efforts, ça payait. Du coup, ça motivait, hein, à chaque fois. Quand tu sors d'une course, tu fais un bon résultat, Tu sais que c'est aussi grâce aux efforts que tu fais. Et après, aussi, d'un côté, je me disais, c'est ma première année, je fais déjà des bonnes performances, je ne sais pas trop d'où ça sort. Mais voilà, et après, je fais la grecque CC où je fais deuxième et puis premier le lendemain, égalité avec Antonin, qui court très bien aussi, Antonin Pivry du team. Et puis après, la Skyrune où je fais deuxième, cadet.
En
Je crois,
2020,
c'est
en 2023 ou en 2022? Non, en 2023.
2022 et
2022.
2023 au final, ouais.
Ouais, ok. Donc voilà, on voit hein, un parcours assez éclair, hein, avec des performances de haut vol dès les 2 premières années. Comment tu gères ces succès-là? Tu en as parlé juste un peu avant. Tu te surprends toi-même, tu l'as dit à plusieurs reprises, donc ça montre aussi que tu es humble, ça c'est une bonne qualité. Comment tu arrives à gérer ces succès, ces bonnes performances, etc. Est-ce que tu arrives à prendre du recul? Est-ce que t'es, voilà, comment tu le vois ça?
Ouais, bah là, même si je commence à même si j'apprends beaucoup de choses, j'ai l'impression de commencer à savoir pas mal de choses. Au final, avec le peu d'expérience que j'ai du mal à prendre du recul et enfin voilà, voir ce que ça signifie. Puis encore une fois, j'ai conscience que enfin rien n'est fait. Et enfin voilà, comme Théo m'avait pu donner des exemples, des athlètes qui étaient très bons quand ils étaient jeunes, mais au final, ils n'arrivaient pas à franchir le cap dans les arrivées seniors. Enfin, à ce moment-là, je savais que voilà, pour la suite, il fallait que je continue à travailler, à faire comme je faisais. Si ça avait payé cette année, ça pouvait payer pour les années d'après. Mais franchement, je savais que j'étais sur le bon chemin. Je prenais plaisir, je kiffais ce que je faisais. Donc, je me suis dit, j'ai juste à continuer, à essayer de faire mon mieux. Voilà, je voyais pas de gros axes d'amélioration. Parce que, bah, encore une fois, ouais, j'avais pas beaucoup d'expérience, puis, enfin, j'avais pas fait encore énormément de courses, et puis j'avais pas vraiment loupé de course aussi cette année, donc c'était, voilà. Mais ouais, j'avais beaucoup appris, et je me suis pas posé trop de questions, je me suis dit, bah, je continue comme ça marche, tout va bien, donc tant mieux.
J'aimerais qu'on passe, si tu veux bien, Jules, à la partie un peu ton avenir un peu scolaire, professionnel. Comment tu l'as dit tout à l'heure, tu es rentré en STAPS là. Comment tu vois ton avenir là-dessus, sur le point de vue formation pourquoi tu es rentré en STAPS déjà?
Ouais. Bah déjà, moi quand j'étais jeune, la plupart du temps de ma jeunesse, enfin au début je savais pas trop quoi faire. Après quand on a 11-12 ans, c'est normal. Mais après, ouais, peut-être de mes 12 ans à mes 16 ans par là, enfin ouais, 15 ans, je voulais être dans l'armée. J'étais à fond dans l'armée.
D'accord.
Je voulais être dans les forces spéciales. Moi, ce que j'aimais, enfin c'était l'action, le sport, l'adrénaline, tout ça, c'est ce qui me tentait. Et ouais, je m'entraînais déjà pour ça. Je faisais pas mal de renforcement musculaire, de la muscu, tout ça. Et voilà, ouais, j'étais déjà bien renseigné dans ça. Mais je savais que si je voulais rentrer dans l'armée, il fallait déjà que je fasse des études avant. Donc voilà. Après, du coup, je me suis posé la question de quelles études je voulais faire un petit peu. J'étais attiré par kiné, parce que voilà, il fallait penser aussi à la reconversion d'après. Donc kiné, entraîneur, pourquoi pas. Voilà, c'était toujours un peu le milieu du sport qui revenait. Et puis après, comment dire, l'armée, ça me bottait un peu moins parce que je voyais aussi que ça venait perturber notre santé au final. Après, moi, je faisais du sport aussi pour être performant, tout ça, mais parce que j'aimais le fait que ça m'apporte d'être en bonne santé et que ça m'apporte du plus dans ma vie. Et moi, je veux faire du sport encore quand je serai vieux, âgé, tout ça. À 80 ans, je veux pouvoir encore faire mes footings, tout ça. Et je me voyais pas faire quelque chose qui aille contre ça.
Quand
Et bref.
le bien-être de ton corps, quoi.
C'est ça, voilà. Ce sont un peu contradictoires. Mais du coup, après, en commençant le trail, tout ça, comme j'ai dit, je me suis pas mal renseigné avec Pascal dans l'entraînement. Et puis ça, tout ce côté un peu scientifique sur la performance, enfin voilà, relié au corps, tout ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et du coup, j'ai dit, bah, pourquoi pas entraîneur? Pascal, c'est ce qu'il avait fait. Il a fait un doctorat en STAPS, en physiologie du sport. Donc, Après, l'entraînement, ça m'a bien botté. Puis là, ouais, ça fait bien 2 ans que entraîneur, c'est ce qui me va. Donc, puis après, il n'y a pas d'autre milieu, franchement, à part le sport qui m'intéresse faire un métier. Donc, je suis rentré en STAPS. J'hésitais, Besançon, Chambéry. Enfin, voilà, est-ce que rejoindre un milieu plus montagneux? Mais au final, Besançon, c'était pas trop loin de chez moi, 1 heure de chez moi. Il y a déjà plus de montagnes un petit peu.
On
Je
rappelle,
connaissais.
t'es entre Besançon et Genève, c'est ça?
Ouais,
À
voilà,
peu
c'est ça,
près.
Champagnole dans le Jura. Donc, ouais, des petites montagnes, mais il n'y a pas de montagne de plus de 200 mètres de dénivelé chez moi. Mais bref, du coup, Besançon, il y avait aussi Trooper et Jérémy qui sont du staff du Brookside Project. Il y avait un ou deux athlètes qui étaient dans le team, Camille Cuchrousset, par exemple. Et du coup, bah forcément, ça m'a rattaché ici. Je savais que j'allais me sentir bien. Je connaissais aussi la ville. J'ai fait un peu des crosses, bah, le trail d'effort, la course aussi. Donc Besançon, ça me plaisait bien. Et puis voilà. Après, maintenant, si tu veux que je réponde comment je me sens
Exactement.
maintenant.
J'allais te poser la question. Comment tu te
Ouais.
sens, Jules, maintenant de...
Bah, maintenant, de toute façon, depuis le début, un peu, si je fais ce sport pour la compétition, tout ça, pour le haut niveau, c'est parce que je veux devenir professionnel. Mais après, c'est pareil, il faut se poser la question de l'après. Et puis, bon, comme je dis, enfin, rien n'est sûr. On ne sait pas à quel moment est-ce qu'on va y arriver déjà. Si on y arrive, à quel moment. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Mais ça, je me pose souvent la question. Mais après, c'est toujours un peu la même réponse. Moi, je veux devenir en même temps le plus vite possible pouvoir être professionnel dans mon sport, et ça m'intéresse pas de faire un métier en même temps à côté si j'en ai la possibilité. Si il y en a qui ont le choix, il y en a qui n'ont pas le choix, enfin voilà. Mais moi, ce que je vivre à fond du sport, c'est ce qui m'a toujours intéressé. Depuis que je suis petit, je veux être professionnel dans le foot. Bah là, professionnel dans le trail, c'est ce qui me va là. Et du coup, après, je sais qu'il faut penser du coup à l'après aussi, et je sais que en ce moment, si je dois enlever le fait de pouvoir être professionnel dans ma pratique, c'est coach sportif qui me va. Après, est-ce que ça m'ira, je sais pas, dans 20 ans? Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr non plus. Mais dans tous les cas, c'est ce qui m'intéresse pendant ce temps, c'est ce qui m'a.
C'est ce qui te
Enfin, je suis
fait, ce qui te fait vibrer, quoi.
persuadé. Ouais, je suis persuadé que ça va m'intéresser encore longtemps, donc je me pose pas vraiment de questions. Je me dis que je fais au moins ma licence en STAPS, le master si je peux en fonction de comment ma pratique va me prendre du temps plus tard. Et voilà, après je me dis qu'il faut que je me professionnalise du coup assez vite dans ma pratique au niveau de ma communication, tout ça, mais sans être enfin une affiche publicitaire. Voilà, le but, c'est avant tout d'être performant, sans griller les étapes, bien sûr. Et puis après, pouvoir bah voilà, ramener des contrats avec des marques. Et après, voilà, moi, au mieux, c'est de pouvoir avoir une carrière de 15, 20 ans, une assez longue carrière. Et après, reprendre toujours un métier, mais dans le milieu du travail, je pense.
C'est intéressant, hein, Jules, ce que tu dis. Ça montre bah, ta motivation, ta clairvoyance et ton ambition aussi. C'est un milieu qui est jeune, le trail, malgré tout. Déjà, première question, est-ce que tu penses que tu pourras arriver à faire une carrière professionnelle dans la course en montagne?
Oui, je veux pas être arrogant tout ça, mais
Non, mais
pour
je veux
moi,
dire, si tu le mets en comparaison avec le trail, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, si tu te limitais, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais si tu faisais de la course en montagne uniquement, est-ce que tu arriverais à en faire ton métier?
course en montagne uniquement.
Oui.
Je pense que oui, je peux arriver à en faire mon métier. Après, ouais, moi j'ai envie de tester plein de choses comme de format de course, que ce soit le skyrunning, tout ça. Après, ouais, oui, je sais que c'est possible. Enfin, Sylvain Cachard qui a fait là pendant pas mal d'années que exclusivement de la course en montagne, il arrive. Maintenant, il teste le trail, tout ça, parce que voilà, ça donne envie à tout le monde. Mais oui, c'est possible.
Ok. Et ce que je disais, c'est que c'est intéressant parce qu'on voit que T'assumes, tu le dis haut et fort que tu veux être professionnel. Donc on est. C'est, première question, c'est quoi ta vision de d'être professionnel de ton sport? C'est quoi les critères?
Bah, pour moi, il y a un peu de définition. Il y a une définition être professionnel dans sa pratique. Donc voilà, comment on construit les étapes pour être le plus performant possible et de la meilleure manière. Et après, bah, il y a professionnel qui est d'avoir comme métier bah, sa pratique de son sport avec des revenus suffisants pour pouvoir en vivre et pratiquer pour en faire son métier.
Tu as parlé de tout un tas de choses juste avant, c'est la communication, le fait d'être visible, le fait d'être performant, c'est un sujet qui est hyper intéressant. On va d'ailleurs faire prochainement un épisode sur le sujet avec des invités un peu surprises là sur le thème. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui agite aussi beaucoup pas mal la communauté et la discipline du trail. C'est le fait que, effectivement, par moment, et notamment auprès des marques. Alors, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, parce qu'on est quand même dans une discipline où il y a de plus en plus de connaisseurs. Est-ce que par moment on n'est pas sur des athlètes qui sont peut-être un peu moins bons, mais un peu plus vendeurs sur l'image, et des gens qui sont très 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 performants et moins vendeurs, notamment sur les réseaux sociaux, etc., qui sont peut-être moins approchés par les marques ou moins reconnus. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça, de cette ça te parle
moi ça me parle. J'ai l'impression qu'il y en a, ils sont plus professionnels sur leur manière de communiquer que peut-être leur manière de pratiquer. Après, encore une fois, enfin, on voit pas ce que font les athlètes quand ils sont tout seuls chez eux, comment ils font leur pratique. Mais j'ai l'impression qu'il y en a, peut-être qu'ils passent trop de temps sur la communication. Enfin, ils priorisent trop ça plutôt que sur ce qu'ils peuvent leur amener sur les performances, enfin, l'entraînement, tout ça. Et après, chacun son truc. Moi, idéalement, ce que j'aimerais, c'est pouvoir juste pratiquer le sport et pas avoir de communication à faire. Au début, j'aimais pas ça. Enfin, voilà. Avant, j'ai jamais trop aimé ça, les réseaux. Je publiais rien du tout. Après, j'ai très vite compris l'intérêt de faire ça. Donc, Théo, enfin voilà, encore une fois, Théo qui avait été il m'avait donné des bons conseils, il m'avait dit bah, lance-toi au début, tu vas voir, après ça devient une habitude et puis t'apprends même à aimer. C'est ce que j'ai fait, je me suis lancé assez vite, j'ai écouté les conseils qu'il me donnait pas sur ça, et puis au final au début j'aimais pas trop, ça me prenait du temps, et après au final on accroche, on se prend en jeu. Et moi la priorité, moi si je fais ce sport, bah c'est pour être performant, être le plus performant possible, avoir la carrière la plus longue possible. Donc c'est vraiment le côté résultat sur les courses, et puis comment mon corps et mon esprit vont travailler ensemble pour essayer d'arriver à atteindre mes limites. C'est quelque chose que je recherche dans ce sport, c'est principalement ça. Et après, pour moi, pour aider à ça, il faut être professionnel. Et aujourd'hui, être professionnel, c'est un peu 50-50. Les pourcentages peuvent varier, mais en gros, c'est ça. La communication, ça passe. Enfin, pour être professionnel, ça passe par là.
Donc, c'est une obligation pour toi. Tu penses que c'est une obligation?
Ouais. Et puis pour moi, faut pas que ça vienne impacter nos moments, nos temps d'entraînement, tout ça. Et plus vite on s'y met, enfin plus jeune on s'y met, mieux c'est. Enfin, se lancer sur les réseaux à 25 ans, c'est pas trop tard. Mais si tu fais du trail depuis 10 ans, c'est dommage de pas en profiter. En fait, quand t'es jeune, si tu fais des bonnes performances et que t'as accès aux réseaux, tout ça aujourd'hui, autant en profiter pour se faire une image. Même si c'est pas vraiment ce que j'aime, ce qui m'attire, mais c'est aujourd'hui c'est ce qu'il faut. Et puis après, si ça nous permet de nous faciliter la tâche pour après avoir des sponsors, des contrats avec des marques, et tant mieux.
C'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue, Jules, parce que, effectivement, d'une part, on a tendance souvent à faire des raccourcis du style ils sont jeunes, ils sont nés avec un téléphone à la main et les réseaux sociaux, c'est une deuxième nature. Bon, on voit avec toi que c'est pas forcément le cas, que
ouais, non.
Presque tu te forces, tu t'es forcé initialement à le faire et que c'était pas forcément inné. Hein,
ouais,
donc,
bah,
donc,
moi j'en vois pas, peut-être pas forcément des jeunes, mais il y en a qui communiquent. Enfin voilà, des trailers qui sont aujourd'hui professionnels, et enfin ils le disent bien, qu'ils font surtout au début, ils ont fait ça parce que les marques leur demandaient ou parce que ça allait en accord avec leur métier, mais c'est pas ce qu'ils aiment dans ce métier, pas forcément.
On a bien compris que toi, et dans un deuxième temps, on a bien compris aussi que toi, t'avais déjà saisi la nuance entre on a besoin de le faire parce que ça fait partie du game, entre guillemets, mais il faut pas que ça impacte sur nos entraînements, notre sérieux, notre performance. Donc c'est un juste milieu à trouver entre être assez visible pour pas être inexistant aux yeux des marques, aux yeux des potentiels contrats qu'on pourra avoir, etc. Mais qu'à la fois, le vrai game, il se passe en montagne, il se passe sur les sentiers. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu as compris, quoi.
Ouais, puis aussi à côté, faut prendre plaisir voilà, quand on est sur un événement d'une course ou qu'on est avec les copains, tout ça, ça sert à rien d'aller vite faire sa publication, d'aller vite sur Strava, mettre son activité. Enfin, pour moi, faut prendre plaisir dans ce qu'on fait, dans notre pratique, puis profiter du moment de nos proches et puis de faire ça. Un peu au second plan, mais toujours réserver un temps pour ça.
Donc une obligation entre guillemets pour être visible, mais pas que ce soit pas une contrainte et que ce soit fait le plus possible. C'est vrai qu'on constate quand même souvent des créateurs de des athlètes qui deviennent créateurs de contenu et on sait plus trop où est la limite entre l'un et l'autre.
Ouais.
Et ça c'est un peu un piège, quoi.
Ouais, bah après, encore une fois, si ça leur va, si ça leur fait plaisir, bien, mais moi, je prendrais pas plus de plaisir à faire ça.
C'est clair, très clair. Ambitieux, ça c'est bien, ça c'est très très bien, c'est une sacrée qualité. Alors c'est encore une fois, hein, c'est hyper intéressant que tu partages tout ça au micro parce que j'avais jamais trop échangé avec quelqu'un d'aussi jeune et j'aimerais aussi, si tu veux bien, nous donner un petit peu ton point de vue sur la communauté du trail aujourd'hui, comment tu la vois, comment. Toi qui as quand même un regard assez neuf, puisque ça fait quoi 2 ans que tu connais vraiment le trail, comment tu juges ou comment tu voilà quel est ton point de vue sur la communauté et cette discipline?
Ouais, bah ça, ouais, j'ai pas mal de choses à dire parce que c'est, ouais, je me suis pas mal posé de questions sur ça. Au début, j'étais vachement étonné par, j'avais entendu l'esprit trail, quoi, dans la discipline. Et je l'ai vachement retrouvé, en fait, enfin, la différence entre le foot, entre la bonne humeur, la simplicité dans la pratique, tu vois, que tout le monde fait ça vraiment pour son pur plaisir. Bah, pour moi, c'était un peu un idéal au début. Et voilà, je voyais tous les bons côtés, tout ça. Ouais, c'est pour ça aussi que j'ai vite accroché à la discipline. Et puis après, bah, plus on avance, plus on voit les petits sous-côtés. Enfin voilà, il n'y a pas forcément tout le monde qui est gentil comme un ange. Mais en gros, la plupart, c'est toujours des super personnes, je trouve. Et puis après, oui. Enfin, la question, c'était quoi exactement
Par
déjà?
rapport à ta vision de la communauté générale du trail,
Oui.
que ce soit sur l'évolution rapide de cette discipline, la médiatisation, tu vois, un point de vue un peu général, comment tu le perçois?
Ah oui. Ouais, bah là, je me rends compte qu'on est en plein dans les années où ça explose, quoi. On est dans les bonnes années, en fait, si en tant que jeune, on veut se professionnaliser dans ce sport, parce que voilà, il y en a de plus en plus, tout ça. La médiatisation, elle est à la fois bonne et à la fois, pour mon avis, un petit peu nocive dans certains cas, parce que à la base, voilà, ce sport, c'est simple. On prend une paire de baskets, on va courir en nature. Après, maintenant, le fait de ramener peut-être trop d'argent dans la discipline, il y a des bons et des mauvais côtés. Après, ouais, tout le monde a un avis, mais c'est dur de trancher, en fait, qu'on peut être On peut être. Ouais, après, voilà, il y a des bons côtés. En fait, c'est bien que ça s'ouvre de plus en plus aux jeunes. Il
De
y
toute
a
façon.
plein de centres de formation qui se font. Avec les marques, elles investissent plus sur les jeunes, tout ça. C'est bien, ça croît la discipline, tout ça. Après, c'est pas encore comme enfin le foot, le handball, enfin plein de sports où il y a des pôles de formation. Voilà, c'est pas. Je trouve ça marche beaucoup quand même par secteur. Enfin, il y a beaucoup dans les Alpes, tout ça, les Pyrénées. On retrouve quand même beaucoup de coureurs de trail ici, bah, ce qui est normal. Mais et puis les viviers un peu des jeunes sont par là, enfin des athlètes de haut niveau. Mais après, oui, ça va dans les futures années. Je pense que ça va bien se développer. Après, il y a plein de possibilités à voir maintenant.
Intéressant, intéressant. Donc un regard un peu il y a du bon, mais tu es aussi conscient qu'il y a du moins bon et qu'il faut voilà, il faut être aussi prudent et surtout au travers de ce que tu nous dis, c'est aussi il faut être vigilant à nos jeunes,
Ouais, bah.
à les encadrer correctement.
Ouais, parce que ouais, quand je suis rentré dans la discipline, on m'a présenté un ADN, l'ADN du trail, quoi. Du trail, et ouais, je l'ai vite compris. Et je vois que maintenant, bah, faut rester dans ses valeurs du sport quand même. Ce serait dommage de vouloir comment croître la discipline, mais de vouloir changer des choses qui sont pas forcément nécessaires. Bah pour moi, dans ce sport-là, il y a des bonnes bases qui sont acquises, enfin voilà, sur l'esprit entre les gens, les courses, les super organisations, tout ça. Et après, on veut changer des choses pour l'améliorer, oui, mais il n'y a pas besoin de changer beaucoup de choses non plus, hein. Je pense que faut laisser faire le temps aussi, et voilà.
Très clair. Sur l'aspect concurrence entre vous, entre les jeunes là qui arrivent dans le milieu, etc. Comment tu la vis cette concurrence-là? Est-ce que tu penses qu'elle est saine? C'est compliqué à gérer. Il y a des tensions, tout ça. Ou est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ce point de vue-là, sur la
Ouais.
concurrence?
Ouais, bah, si je dois parler pour ma part, ouais, les hyper saines. En dehors de la course, on est tous des copains, des vrais amis. Si le gars, on ne le connaît pas avant la course, on fait la course contre lui, on fait un bout de chemin contre lui. Enfin, on arrive au sprint, tout ça, on se retrouve à l'arrivée, on discute. Oh, mais tu viens d'où, tout ça? Et à la fin, bah, après, ouais, ça s'ajoute sur les réseaux sociaux, ça reste en contact, ça se parle, ça se retrouve sur d'autres courses. Puis, ça en fait des copains, donc c'est hyper bien. Et après, moi, je consens que sur une ligne de départ, au moment du coup de feu, là, il y a plus personne qui a mis. Là, c'est chacun pour soi, et puis on donne le meilleur, et voilà, tout le monde veut se battre, et tout le monde a son petit ego, et puis ce qui est normal. Après, voilà, tout le monde donne le maximum, et au fin de compte, on se rend compte qu'on a tous la même vision, enfin les mêmes valeurs un peu du sport, de pourquoi on le fait. Donc non, c'est hyper sain. Plus je rencontre des personnes, plus j'ai de copains, quoi.
Ah, c'est cool, c'est cool. Il y a une vraie communauté des jeunes trailers, des jeunes coureurs en montagne, pas fake, hein. Alors
Ouais, c'est une des choses qui m'a le plus plu dans ce sport quand j'ai commencé.
Tu t'es fait des vrais copains et que ce soit que donc on a bien compris que ce soit au sein du Team Brooks ou alors même au-delà, quoi.
Ouais, ou même à l'extérieur, ouais.
Raconte-nous un petit peu la Tiki 2023. Ben j'y étais aussi. Comment ça s'est passé cette année? Je crois que tu finis deuxième sur la Tiki. On rappelle, la Tiki, c'est la course pour les jeunes sur la Skyrun. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur cette course un peu spéciale?
Ouais. C'est une course que j'aime bien parce que déjà il y a de l'ambiance, donc moi je trouve c'est dans le sport c'est une des choses que je kiffe. Et il y a un bon format, la course est vraiment sympa, c'est bien montagneux, il y a 10 km et 600 de dénivelé. Et du coup il y avait une bonne concurrence cette année, c'est parti assez fort. Après dans la montée, ça s'est vite un peu éparpillé, on s'est retrouvé un peu. Il y a Jules Mongelat qui est parti devant. Après, il y avait Antonin Théron, Eric, Alric Petit. Après, il y avait Antonin Pivry. Après, j'étais aussi dans le coup. Et on passe à Miramar, il y avait une super ambiance. Je me retrouve à ce moment-là troisième avec Antonin Pivry, je crois. Et puis dans la descente, je me sentais bien et j'aime bien faire le kamikaze des fois en descente, en course.
Tu débranches
Et
le cerveau encore.
là, j'ai tout lâché. C'était la dernière course de la saison. J'ai dit, quitte, enfin voilà, on lâche tout. Je savais que Montgelas était assez loin devant, puis bien gagné du temps dans la montée, et je voyais un peu Alric devant. J'ai réussi un peu à me défaire de d'Antonin Pivry, et à la fin de la descente, du coup, j'ai fait une grosse descente, je suis rentré sur Alric, puis là, on voit la pancarte, il reste plus qu'à 1 km sur la route. Là, je suis 2 mètres derrière lui. Et là, je dis, ouais, si j'ai fait tout cet effort-là, c'est pas pour me faire battre par lui dans le dernier kilomètre. Donc là, j'ai commencé à accélérer, et je fais un gros finish comme j'aime bien faire, tout donner jusqu'à la ligne. Et on s'est fait une belle bataille sur le goudron et avec Alric. Et puis au final, ouais, je finis deuxième. Donc j'étais bien content parce que voilà, bah, je bats du beau monde et puis j'améliore mon chrono de 2 ou 3 minutes comparé à l'année dernière, 3 minutes je crois, ouais. Et puis ouais, je fais une super course qui montre ma progression de toute cette saison en fin de compte. Donc c'était bien sympa, et il y avait une bonne fête après pour profiter que des copains.
C'est clair, c'est clair. Belle fête à la Rune. L'année prochaine, tu refais la Tiki ou tu passes sur le format Skyrune normal?
L'année prochaine, je suis pas sûr d'être à la Skyrune.
D'accord. Ah, tu
Parce
souris, ça veut dire qu'il doit y avoir un truc.
ouais. Bah, pour l'instant, c'est pas encore sûr, mais je vais sûrement partir faire une année à l'étranger
D'accord.
pour concilier toujours le sport et les études,
Ok.
et mettre encore plus dans le sport. Et du coup, j'aimerais bien aller aux États-Unis dans l'université et me mettre à fond sur un peu la piste, la route, tout ce travail de vitesse à plat pendant une année,
D'accord.
et découvrir toute une autre culture du sport pour avoir un groupe d'entraînement, tout ça. Donc si je pars, je partirai sûrement août 2024 après Cerzinal. Donc
D'accord.
pendant ce temps, je pense pas trop à la Skyrune, mais voilà, on
Ok.
verra.
Ah, c'est un beau projet, ça. Qu'est-ce que tu, mis à part le fait de se côtoyer un peu à une autre culture, qu'est-ce que tu veux y chercher, tu voudrais y trouver, alors je sais pas si c'est sûr ou pas, hein, ce que tu viens de nous annoncer, mais qu'est-ce que tu voudrais y trouver en allant là-bas?
Bah, de toute façon, ouais, plus j'avance pendant ce temps, plus ça se concrétise. Donc
Ouais.
voilà. Bah, là-bas, je veux y retrouver plein de choses. Bah, tout d'abord, j'ai toujours un peu voulu aller un peu à l'étranger. De base, c'était plus quelques mois pour apprendre plus l'anglais. Donc là, je sais que si je pars au moins un an,
Tu vas pas avoir le choix.
je vais pouvoir rentrer et puis faire des interviews en anglais avec toi solide. Ça va. Et non, après, bah, pareil, dans sa vision d'entraînement, Pascal, il m'a toujours dit que fallait apprendre la base de la course à pied, qui était de bien savoir courir à plat. Et voilà, avec les crosses, tout ça, que c'était hyper important. Et donc, il y avait ça. Je voulais vraiment, même si je suis déjà, c'est mon point fort, peut-être courir à plat, ça m'apporte des bonnes qualités en descente, tout ça. Je voulais me perfectionner là-dedans. Et puis, j'ai commencé à faire un peu. Pas trop de pistes, mais sur la route, des 10 km route, et je me sors de mieux en mieux. Et je vois que ma charge d'entraînement, elle augmente pas pour autant, mais à chaque fois, je bats mes records, donc c'est bien. Bon, en cross, je m'en sors bien. Et après, en fait, de base, il y avait une agence qui m'avait contacté, qui s'occupe des échanges, donc de tout faire un peu administratif, hein, les papiers, tout ça. Et du coup, elle m'a présenté l'opportunité. Moi, je me suis renseigné à la suite de ça. Je connaissais pas trop trop. J'en avais entendu parler un petit peu. Puis, au final, j'ai contacté une autre agence qui, selon moi, est plus fiable et qui est mieux, qui a fait ses preuves avec beaucoup d'athlètes. Et après, de là, j'ai découvert une toute autre culture que j'ai envie de découvrir pleinement. Bah, Tout le rythme de vie là-bas et d'entraînement. Déjà, moi, je m'entraîne, ouais, 90% de l'année tout seul. Enfin, là, ça va un peu mieux depuis à Besançon, mais ouais, il y a des périodes qui sont dures des fois. Mais je sais que c'est là que on se forge. Mais après, je le vois bien en stage. Quand on est en stage,
Tu
c'est
te
là
dépasses
où
plus.
je me donne le plus, ouais, vraiment. Et puis où j'arrive des fois à être encore plus concentré sur mon entraînement, tout ça. Et puis du coup, voilà, là-bas, c'est une opportunité de continuer à faire mes études, mais de les mettre un petit peu de côté, parce que je prendrai sûrement une année de césure et on a moins de cours, on a peut-être que 15 heures de cours par semaine, que cours le matin. De ce que j'ai entendu, on fait les entraînements tôt le matin à 6 heures du matin, après on va en cours et l'après-midi, on fait de la récup avec des kinés qui sont mis à disposition pour nous toute la semaine, des bains chauds, des bains froids.
D'accord.
Et puis t'as l'entraîneur qui est là 6 jours sur 7, deux entraîneurs pour toi. Et après, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Parce qu'il y a les bourses et ça se décroche avec les performances sportives et il y a
D'accord.
différentes niveaux. Et donc voilà, il y a plein de choses qui m'intéressent là-dedans.
Donc en
Donc
fait, c'est intéressant cette notion de bourse. Et c'est quoi les tests, les c'est quoi, c'est des minimums, c'est quoi des tests, comment ça se passe pour prouver que t'as le niveau pour obtenir une bourse et pour entrer là-bas?
bah justement, c'est avec les personnes de l'agence avec qui je suis en contact, qui nous expliquent toutes les démarches, parce que c'est quand même assez compliqué en tant qu'étudiant français d'aller là-bas, donc et qui contactent eux les entraîneurs, qui ont déjà des contacts parce qu'ils ont envoyé des athlètes ou pas dans des universités. Et du coup, on dit un peu nos critères de base, le niveau qu'on voudrait aller. Ils nous disent selon nos performances ce qui est possible. Et là-bas, il y a le niveau scolaire qui est un peu important. Il faut faire un test, des tests d'anglais, réussir. Mais c'est surtout la performance sportive qui permet aux étudiants de décrocher des bourses à l'année pour l'université, puisque c'est très cher. Enfin, en France, l'école est gratuite ou quasi gratuite. Là-bas, ouais, c'est plus entre 30 000, 50 000 euros l'année. Donc, il y a besoin d'être performant pour décrocher des bourses. Et donc, après, en gros, l'agence, ils nous vendent auprès des entraîneurs en fonction de nos performances et aussi de nos potentiels. Après, les entraîneurs, c'est le potentiel, forcément, c'est moins sûr, mais moi, ils arrivent assez bien à le faire là, car bah, je viens du trail. J'ai pas fait beaucoup de courses sur route, sur piste non plus. J'ai pas un gros rythme d'entraînement, donc ils voient bien que je peux bien progresser, que je fais des bons tours sur 10 km pour l'instant. Donc voilà, ça fonctionne comme ça.
Est-ce que tu, par rapport à ce, déjà on te souhaite tout le meilleur, hein, si ça se fait, est-ce que par rapport à cette coupure-là, ça serait d'un an maximum, est-ce que tu n'as pas peur que ça t'éloigne un peu du milieu du trail ou tu vois ça vraiment comme un outil en plus pour ta future carrière et ta future vie pro?
Ouais, bah c'est ce qui me faisait hésiter au début. Et du coup, j'en ai pas mal parlé bah, avec mes entraîneurs, que ce soit Pascal ou maintenant bah, Simon Fischer. Et bah, ils ont tous été d'accord, tous mes proches, enfin, qui s'y connaissent dans le travail, pour me dire ça, que non, au contraire, ça pouvait être utile.
Bien sûr.
Après, moi, j'ai quand même envie de garder quelques sessions de travail dans l'année. Mais ils m'ont dit, même si tu fais quasiment pas de dénivelé dans l'année, pour eux, ça peut être que
Bien
bénéfique,
sûr.
car bah, le corps, enfin, il est intelligent. Ce qu'on a déjà acquis, une fois qu'on arrête, il suffit après de quelques semaines, quelques mois, et on y retrouve. Donc, au final, j'aurais peut-être pas progressé sur le dénivelé en un an, mais ils pensent que ça peut être encore plus bénéfique de progresser sur le plat, notamment enfin, sur la technique de foulée, et voilà, pas mal de choses avec.
Et là,
Et puis
on
après,
parle que du sportif, hein. Il y a tout ce qui va avec à côté, hein. Comme tu dis, l'apprentissage de la langue, etc., ça peut être fondamental pour toi,
ouais, bah si je veux devenir un des meilleurs athlètes internationaux,
hein.
mais du coup après oui revenir et puis basculer petit à petit sur le trail et puis voilà au début pourquoi pas aller sur une course des Templiers qui est assez
Roulante.
roulante et puis on l'a vu bah là d'ailleurs il y a un athlète Pierre Galbourtin si je me trompe pas sur son nom qui vient de signer chez Brooks, et bah lui, il a fait plusieurs années dans l'université à Wingate aux États-Unis. Et c'est lui qui a gagné le 35 km des Templiers cette année, le marathon d'Écosse. Voilà. Et ouais, il a mis à l'amende pas mal de trailers qui étaient déjà confirmés là en France, tout ça. Et donc, ouais, là, j'ai vu concrètement
Que
que
c'était
ça pouvait
faisable.
être utile, oui.
C'est bien, tu as déjà pensé à tout, c'est bien. Jules, on voit que tu as des ambitions. Quelle partie des États-Unis tu aimerais. Tu as le choix ou c'est.
Ouais, j'ai le choix, mais en même temps, il y a des universités qui sont bien, parce que par exemple, elles sont en altitude, il y en a qui sont à 2000, 2500, mais ça, forcément, beaucoup veulent y aller. Après, il y a le niveau, la division s'appelle NCAA, il y a division 1, division 2, division 3, il y a une sorte d'autre ligue aussi, mais voilà. La principale, c'est celle-là, et ils pensent que moi, je peux arriver entre milieu, bas de tableau, NCAA 1, division 1, et dans une bonne équipe de la division 2. Donc voilà, après, ça, c'est dispatché dans tous les États-Unis, de toute façon. Mais moi, ce que j'aimerais bien, ça serait l'Ouest, parce que bah, rien que pour le cadre de vie, quand tu vois les images à Pikes Peak, tout ça, au Colorado ou en Californie, bah, la montagne là-bas, ça donne envie. Après, c'est pas obligatoire là. Pendant ce temps, c'est plus des universités de l'Est qui me contactent. C'est moins en milieu de montagne, mais c'est quand même sympa. Ça reste les États-Unis. Donc voilà, cet endroit géographique, ça serait plus l'Ouest pendant ce temps, mais on verra.
Super. En tout cas, c'est une super. Ça peut être une super aventure. On te souhaite que ça se fasse. Tu me tiendras au courant, hein, du coup. Et puis,
Ouais,
ça serait.
ça
Alors,
marche.
je t'ai dit ça tout à l'heure, mais ça serait un an maximum.
Ah oui, ouais. Moi, de base, c'était un an, pas plus, pas moins. Ouais, moins, c'est pas trop possible. Après, l'agence qui essaye de me pousser un peu plus, mais enfin, moi, j'ai conscience que je fais ça pour le trail et pas parce que je veux basculer. Enfin, du côté piste, route, j'aime bien ça, mais j'aime bien performer aussi sur ça, mais c'est surtout en guise de préparation. Du coup, non, pour moi, j'ai vraiment envie que ça me serve, mais après, pour le trail et de vite retourner aussi sur le trail, parce que je pense que ça va peut-être aussi me manquer. Puis aussi vis-à-vis des sponsors, enfin, de Brooks, tout ça, c'est important quand même de garder des compétitions, avec eux. Donc, un an, pour moi, ça me paraît l'idéal.
Garde une place au chaud, du coup, dans le team?
Bah, oui, on y discute, mais normalement, ce serait ça. Après, il y a plusieurs possibilités. Mais après, le problème, c'est que les universités là-bas, ils ont obligés de courir à chaque compète avec du coup leur maillot, leurs équipements. Et puis, pareil, ils sont affiliés aux marques. Donc, que ce soit n'importe quelle autre marque là-bas. Et Brooks n'ont pas vraiment d'université là-bas.
D'accord.
Mais oui, dans tous les cas, pendant ce temps, je suis plutôt bien vu par la marque. Ça va, j'ai pas de problème à me faire, je pense.
Très très bien. On voit que la formation des jeunes en France, on est un pays quand même qui est un peu précurseur sur ce point de vue-là, notamment avec beaucoup de marques qui font le taf. Toi qui as vu un petit peu comment ça se passait à l'étranger, en Italie, en Espagne et tout, est-ce que tu peux dire qu'en France on est un peu en avance? Est-ce que dans les autres pays européens, tu vois aussi que ça se met en place?
Ouais, bah ça j'arrive à le voir en faisant la Coupe du Monde en cadet ou le championnat du monde en Autriche cette année. Je pense que ouais, les Français, chez les jeunes, il y a un bon vivier pour la suite. Bon, on l'a vu avec les classements individuels ou par équipe, on fait 2 fois 2e là cette année en junior. Puis même en cadet, que ce soit équipe garçon ou fille, on fait toujours un peu des podiums par équipe. Donc il y a une bonne régularité et un bon ensemble. On fait toujours des bons et tout ça. Après, comparé aux autres nations, la France, je pense que c'est la plus régulière ou l'une des plus régulières chez les jeunes. Après, ouais, chez les gars, cette année, on a vu que les Suisses étaient très bons aussi, mais ce qui n'est pas forcément le cas en cadet. Enfin, ça dépend des générations. Mais je pense que, ouais, on a notre petit coup d'avance en France.
Très clair. Bon, ben Jules, c'est parfait. On va passer, si tu veux bien. Est-ce que tu veux rajouter, avant qu'on passe aux questions rapides, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la discussion? Est-ce que tu voulais faire passer un message? Je t'en prie, le micro, t'es ouvert. Tu peux laisser parler ton imagination.
Ouais, bof. Non, si je peux laisser un petit message, ce serait quelque chose qui me correspond, ce serait. Bah, juste de pas se compliquer, pas se compliquer les choses, pour les trailers, qui font cette pratique, c'est de garder le principal, en notion de plaisir, de faire ce qu'on aime et puis ce qu'on a envie, de garder, pas s'éparpiller, partout, de se poser plein de questions. Et si on veut faire ça pour la compétition, parce qu'on aime ça, on fait ça pour ça. Si on veut faire ça pour notre plaisir, voilà. Si on aime cette course, bah, on la fait. Et puis, ouais, de rester simple. Pour moi, c'est comme ça que ça marche le mieux.
Parfait, message passé. Allez, on passe aux questions rapides. Tu réponds par des réponses courtes et sans argument. Est-ce que tu es prêt?
Ouais, ça marche.
Ton plat favori après la course?
Ouais, des bonnes patates avec du fromage, du comté.
Ben évidemment. Ta boisson
Ouais.
favorite après la course?
Ouais, j'aime bien Cyrinal, donc l'arrivée là.
De quoi?
J'aime bien Sferdinal, donc l'arrivée là.
L'arrivée là, c'est quoi?
C'est une boisson suisse
Ah ouais?
qui est un soda qui est, bah, j'y avais goûté pour la première fois il y a 2 ans là-bas et c'est très bon.
Désolé pour nos amis suisses, je ne connaissais pas. Je goûterai à
Ah,
l'occasion.
c'est bien.
Tu préfères partir avec deux chaussures gauches ou avec un bras attaché dans le dos sur Zinal?
Deux chaussures gauches parce que les bras ça sert pour courir.
Tu préfères aller avec grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie?
Moi, je viens du Jura, une grosse averse de pluie, ça me va.
Parfait. Tu préfères la forte chaleur ou le grand froid?
Grand froid.
Tu préfères les racines ou le verglas?
Ouais, verglas.
Verglas. Quand tu cours, t'es plutôt podcast, musique ou bruit de la nature?
Ah, bruit de la nature.
Quand tu prévois tes courses, tes temps de passage, ils sont plutôt anarchiques, en prévision ou métronomiques?
Ça veut dire quoi un peu ça? Parce que...
Est-ce que tu calcules tes temps de passage sur les courses? Est-ce que tu le réfléchis à l'avance ou tu y vas
Ah,
all out et tu verras bien le temps que tu mets?
ouais, il n'y a pas beaucoup de courses où je prends les temps de passage, mais si, au final, je réfléchis un peu quand même.
Ouais, tu réfléchis. Enfin, bon, c'est cool. Tu préfères courir seul ou accompagné?
Ouais, ça dépend, mais accompagné.
Accompagné. Bon, Jules, c'était parfait. Merci vraiment beaucoup. Moi, je tenais à te dire que je trouve que tu as beaucoup de maturité, et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir reçu, d'avoir le point de vue d'un jeune trailer, hein. On rappelle, tu as à peine 18 ans, et dans ce que tu nous partages, dans ton approche, dans ta vision, c'est à la fois il y a de l'humilité, à la fois il y a des ambitions. Tu sais ce que tu veux, tu te prends pas la tête. Il y a un peu tout le cocktail qui fait que je pense que tu es une bonne personne et que tu vas devenir un super athlète. Donc voilà, je tenais à te dire que j'avais énormément apprécié cet échange et je te remercie beaucoup, beaucoup pour le temps que tu as accordé aux auditrices et aux auditeurs du podcast.
Ouais, bah, merci à toi, c'est sympa de ta part.
Avec
Et
plaisir.
puis, ouais, continue à faire ce que tu fais, c'est cool de pouvoir participer à ça, donner un peu son avis pour construire, continuer de construire cette pratique. Et bah, c'est cool, merci.
Et j'en profite pour faire un petit coucou à Monfredo de la Brouille qui me tannait depuis. Alors c'est pas à cause ou grâce à lui que t'es là aujourd'hui, hein, mais ça fait quelques mois, voire quelques années qu'il me dit faut que t'invites des jeunes, des jeunes, des jeunes pour qu'on parle, pour qu'on puisse comprendre un petit peu la vision. Et je pense que vraiment t'étais la personne idéale pour ça. Merci pour tout, Jules. Et puis je te souhaite tout le meilleur. Aux États-Unis, tu nous fais des retours pour nous expliquer un peu comment ça se passe là-bas et on sera ravis.
Ouais, y a déjà une saison à 2024 à réussir, hein,
Ouais,
avant.
c'est vrai, il y a une saison 2024 à réussir, mais ça, je te fais confiance, il n'y a pas de souci.
Ouais, ça marche.
Allez, bonne soirée, et puis merci encore, à très bientôt, et bonne
Ouais, merci
continuation.
à toi.
Salut Jules.
Salut.
Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Jules Barriot, que je remercie énormément pour son partage d'expérience et pour le temps qu'il a accordé au LTP. Et nous te souhaitons, Jules, tout le meilleur pour ces championnats de France de course en montagne à Briançon le 28 avril 2024. Si tu souhaites rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Ride le podcast. Tu peux également me suivre à titre perso, si tu le souhaites, sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou Strava à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. Tu peux également, si tu souhaites aider le LTP, te rendre sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify, mettre une petite note de 5 étoiles et ajouter un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vraiment tu veux aider, encore un peu plus le LTP, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi et à partager les épisodes afin de faire en sorte que le LTP puisse atteindre le maximum d'oreilles. Et puis enfin, n'hésite pas, si tu souhaites soutenir financièrement le LTP, à te rendre sur la plateforme patreon.com/letstrylepodcast. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut, salut!
On m'a appris tout à l'heure, la sélection officielle est sortie et du coup c'est Loïc Roland qui a été sélectionné.
De la team Keep Run.
Team Keep Run, coureur de 29 ans, qui débute aussi, qui n'a pas de grande. Qui a pas une très très grande expérience dans le trail. Et en fait, là, c'est un peu les questionnements qu'on avait après le championnat. C'était de savoir si Adrien Séguré allait prendre Loïc, qui a fait un super championnat de France, mais qui est quand même à 7 minutes de Thomas Cardin. Ou alors, est-ce qu'il allait prendre plutôt un Thibaut Garrivier qui est passé à côté de son championnat de France, par contre qui a montré à de très nombreuses fois que c'était une valeur sûre. Quatrième au dernier mondiaux de trail long, sixième il y a 2 ans, deuxième du trail du Ventoux à 30 secondes de Thomas. Donc, on pouvait se poser la question, mais finalement, c'est Loïc Roland qui sera au championnat d'Europe.
Ouais, donc, si on récapitule les sélectionnés pour les Europes, chez les femmes, Julie Roux, Clémentine Geoffrey, Blandine Hirondelle, Adeline Martin. 3 qui prennent sur 4. Et chez les hommes, Thomas Cardin, Loïc Roland, Hugo Deck, Roubiol, Benjamin, 2 qui prennent sur 4. Donc on est à 5 qui prennent sur 8 sélectionnés. Je pense que voilà, il y a rien à dire sur le nez de notre ami Thierry Breuil de la team Keep Run qui là je pense qu'il doit se frotter un peu les mains parce que c'est clairement une démonstration de Keep Run.
Tout à fait. Rappelle juste que Madame Robiol fait partie du team Silas Martin.
Voilà, merci.
Hugo Deck fait partie du team Adidas. Et que
Julie Roux fait partie du team Salomon.
Exactement. Donc. Ouais.
Voilà. Mais bon.
Mais oui, très belle. Après, oui, non, mais
c'était bravo, pour te taquiner. Bravo, Kipren. Bravo, Kipren. Petit retour sur la Decepção, Thibaut Garrivier.
Écoute, quoi dire.
Qu'est-ce que t'en penses?
Qu'il en a trop fait et qu'il s'est fait un peu surprendre. En fait, on a l'impression que Thibaut, il en fait trop tout le temps et que vu qu'il a un niveau physique qui est très élevé, ça passe tout le temps sur des places d'honneur, des très belles places. Par contre, ça passe jamais quand il faut ultra performer et qu'il faut finir podium, voire aller gagner une course. Alors, faudrait regarder, mais voilà, au Ventoux, il est à quelques secondes de Thomas, mais du coup, il fait encore deuxième. L'an dernier, au Mondiaux, il fait quatrième. Il y a 2 ans, il fait sixième. L'UTMB, il fait une fois dixième, une fois sixième. Alors, c'est des super places et des super performances, mais pour l'instant, on ne le voit pas sur le devant de la scène.